sur la manière d'appréhender des images, donc toutes images confondues, enfin c'est ce que vient de dire Omar, hein, images synthétiques, donc images qui sont censées exprimer par la peinture, le dessin, etc., comme les images analogiques, photographie, cinéma, télévision. Et je dirais un peu que, comme en conclusion Omar, que la statuaire me paraît peut-être avoir une circulation très très différente que les autres formes d'images. Donc je vous parlerai très très peu de la statuaire, enfin voire pas du tout. Par contre, toutes les autres images, bien sûr. Alors, moi, il me semble que dans une perspective historique ou socio-historique, on ne peut pas étudier ces images sans les appréhender sous trois angles complémentaires, dont là aussi Omar a parlé, les conditions de production, la médiation, donc l'analyse des images, et puis la difficile question de la réception de ces images, difficile question, puisque pour l'instant, on n'a quand même pas beaucoup avancé, il y a vraiment très peu de travaux. Alors, les conditions de production, ce sont des questions un peu basiques, mais très importantes. Qui étaient les commanditaires? Quels étaient les objectifs visés? Quel destinataire était supposé de ces images? À quoi ressemblait le champ artistique du moment de la production? Quelles étaient les limites et les contraintes technologiques? Quels étaient les budgets, etc.? La réception, c'est évidemment un peu un problème, puisque production et réception sont totalement insécables. Il est évident qu'un producteur s'adresse déjà dans l'absolu à des destinataires. Il sait exactement ou presque, par des sondages préalables, qui sera son public. Alors, je vous donne un seul exemple, c'est la sociologue Sabine Chalvon de Mercé. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit ouvrage, 1000 scénarios enquête sur l'imagination en temps de crise. Elle avait eu la chance, étant sociologue CNRS, mais aussi responsable du programme Jeunesse Antenne 2, de récupérer tous les scénarios qui avaient été adressés à la chaîne, laquelle avait lancé un concours, le meilleur scénario serait tourné, etc. Et elle s'est rendue compte au départ qu'elle avait mésinterprété, c'est-à-dire qu'elle avait une population de scénaristes extrêmement diversifiée, qui allait du néophyte au très chevronné. Elle avait tous les âges, elle avait toutes les appartenances géographiques, confessionnelles, politiques, etc. Or, tout le monde racontait la même histoire et imaginait les mêmes images. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle s'est rendue compte que tous ces gens se mettaient déjà en position de destination, c'est-à-dire qu'ils savaient que c'était pour Antenne 2, que c'était pour du prime time et que c'était donc pour un destinataire supposé. Bien sûr qu'ils auraient aimé le monde, enfin ils auraient aimé montrer ce qu'ils croyaient du monde, ce qu'ils avaient envie d'exprimer du monde, mais ils ne l'ont pas fait. Les seules variations étaient stylistiques. Pour le reste, ils s'étaient vraiment mis à la place du destinataire. Et alors, la médiation, donc l'analyse des images, eh bien, je terminerai par là, parce qu'il me semble que ce ne sont pas des témoignages, ces images, parce qu'il y a des réceptions décalées, que souvent les images sont mises sous le boisseau et puis nous sont montrées bien plus tard. Donc on ne peut pas y lire, en tout cas, le témoignage d'une société. Au mieux, ce que Marc Ferraud a appelé une contre-analyse, mais encore en prenant beaucoup de précautions. Et je crois aussi qu'il faut une méthode pour les appréhender, faute de quoi là aussi on les interprète. Donc il faut s'appuyer, même si ça nous paraît un peu surprenant en histoire, sur les acquis de la sémiologie pour l'image fixe et sur les acquis de la narratologie lorsqu'on a un récit, lorsqu'on a de l'image mobile. C'est-à-dire que dès qu'il y a deux images, évidemment, se met en place une logique d'implication pour le spectateur qui se raconte déjà toute une petite histoire. Et là, il faut quand même l'appréhender comme un récit. Alors, j'arrive donc à la première partie, la production. Et je voudrais séparer en deux les contraintes. Il me semble qu'il y a des contraintes externes et puis qu'il y a aussi des contraintes que j'appellerais internes qui pèsent sur l'artiste. On a par exemple une étude de Pierre Sorlin que je trouve assez intéressante sur les pyramides de Gizeh. Alors sa question, c'est à peu près la suivante. Au départ, comment pouvait-on photographier ces fameuses pyramides quand on a eu les premières plaques de verre ? Et il montre que ces plaques étant très sensibles, on ne peut finalement photographier qu'à rebours du mouvement du soleil, et que donc tout le monde fabrique le même type d'image, avec le sphinx en premier plan, et puis les pyramides qui s'en vont comme ça en oblique vers le fond droit du cadre. Et puis son interrogation après, c'est finalement, quand la technique change, est-ce que les esprits changent aussi, ou est-ce que la circulation d'images et la prégnance des modèles est tellement forte que les gens continuent, alors qu'ils croient innover, qu'ils croient chacun faire des photos qu'ils envoient à leur famille ou des cartes postales qui vont se diffuser sur les sites touristiques. Est-ce qu'ils font vraiment autre chose ou est-ce qu'ils recommencent à prendre des images, des clichés qui circulent autour d'eux? Et évidemment, sa réponse, c'est qu'ils reprennent des clichés qui circulent autour d'eux et qu'aucun n'innove. Alors, évidemment, après, il faudrait s'interroger sur, après les attentats, quel type d'image on a faite. Alors, j'avais un tout petit peu commencé à regarder, et c'est vrai qu'après, on montrait le Sphinx en gros plan, il n'y avait plus d'image des pyramides. Alors, est-ce que ça a duré? Est-ce que ça a été seulement les 2 ou 3 années après les attentats? Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas poursuivi, mais c'est une vraie question, quoi. À partir de quand réussit-on à voir autrement, à une autre distance? Alors, autre contrainte technologique là pour l'image mobile, on risque de mésinterpréter si on oublie qu'au départ, les caméras sont quand même très lourdes, très empesées et qu'on ne peut pas circuler partout avec elles. Qu'on ne peut pas non plus, même enfin, au début du parlant, capter du son synchrone. Donc, si on construit un cinéma de décor lorsque l'on veut montrer les quartiers dits populaires, ce n'est pas une volonté de se déplacer dans de l'haussmannien pour ce qui est de Paris ou de rester en décor, mais c'est parce que dans de l'haussmannien avec des couloirs en enfilade, la caméra peut vivre sa vie, faire du travelling avant-arrière, et puis il y a suffisamment de place pour l'installer, alors que dans une chambre de bonne, ce n'est tout simplement pas possible. Il y a aussi des problèmes de luminosité, donc on ne peut pas non plus entrer dans un bidonville, il n'y a pas de lumière, etc. Donc les contraintes technologiques me paraissent importantes. Les contraintes financières et budgétaires aussi. Alors là, c'est quelque chose d'assez intéressant dans la thèse de Marilyn Crivello. Elle a consacré sa thèse, parue sous le titre « Les écrans de la Révolution », à la manière de représenter la Révolution française au petit écran. Et puis, bien sûr, elle s'est arrêtée au-delà du bicentenaire. Et alors, elle se rend compte que pendant des années, on montre sans aucun problème la guillotine. Et puis, juste avant le bicentenaire, on ne montre plus de guillotine. Donc, sa première idée, c'est « Tiens, on a changé de sensibilité » ou alors « L'équipe de réalisation et les producteurs pensent que les Français ont changé de sensibilité ou que ce n'est pas exportable ». Et puis, elle se rend très vite compte qu'elle fait fausse route en faisant, je crois, ce qu'il est logique d'aller faire, chercher les archives. Et là, elle se rend compte que finalement, les enveloppes budgétaires, enfin l'enveloppe globale, est à peine plus élevée que d'habitude, alors que pour le bicentenaire, on a démultiplié les réalisateurs et le nombre de réalisations. Donc, ils ont beaucoup moins d'argent pour faire la même chose. Donc, dans les scénarios, donc, non seulement elle retrouve les enveloppes, mais ensuite elle va voir les scénarios. Et dans les scénarios, tout le monde avait imaginé une guillotine et des figurants. Alors, c'est un peu la même chose au niveau de la télévision et du grand écran. Je pense qu'on en fait tous l'expérience. Quand vous voyez le même événement historique, par exemple, raconté au grand et au petit écran, eh bien, au petit écran, on n'a pas de contre-champ, on n'a pas de foule qui applaudisse un orateur, parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer des figurants. Donc, on va chercher des éléments de sonothèque avec des bruits, des clameurs. Et on a notre orateur en contre-plongée, puis rien ne se passe, on ne voit jamais l'autre côté, puisqu'il n'existe pas. Autre contrainte, celles qui sont imposées par le commanditaire, sachant que généralement, alors c'est évidemment plus vrai encore dans le passé, lorsque ça coûtait cher, l'artiste travaille généralement pour un commanditaire qui est parfois aussi le destinataire de l'œuvre. Donc, il répond à une commande et après, il peut évidemment ruser, détourner la commande, mais quand même, au départ, il est censé respecter certains codes. Alors là, je me fonde un peu sur les travaux de Michael Baxandall, l'œil du Quattrocento, parce que je trouve ça quand même très très important. Il nous montre bien que les peintres de la Renaissance ne fabriquent pas du tout le même type d'œuvres selon la façon de les payer. C'est-à-dire que selon qu'ils sont payés à l'innovation, à l'originalité du sujet, ou alors au temps passé, ou encore au mètre linéaire, ils ne vont pas du tout fabriquer la même peinture. Ils peignent aussi ces artistes en fonction de leur commanditaire, qui est le destinataire. Donc évidemment, si les puissants ecclésiastiques ou politiques souhaitent être mis en majesté, hein, ce qui est souvent le cas, on va les peindre plus grands qu'ils ne sont, en contre-plongée, enfin ça impose un certain type de cadrage. Et puis surtout, alors je vais vous montrer deux portraits d'Hyacinthe Rigaud. Souvent, ils vont donner un air de ressemblance, parce qu'il faut montrer une généalogie, alors qu'il n'y a pas de ressemblance du tout. et au besoin vont donc prendre d'autres modèles. Ce ne sera pas la vraie personne qui pose. Donc il y a quand même une grande différence, me semble-t-il, entre l'image analogique, parce que là on peut déformer par la perspective, le point de vue, l'éclairage, la personne, mais c'est tout de même la personne, ou éventuellement un sosie, mais en tout cas c'est une personne très ressemblante. Alors que dans l'image synthétique, donc jusqu'en 1830 disons, on a quand même là la possibilité de mettre un modèle totalement différent de celui qui est censé être figuré dans une peinture ou un dessin. Pour peindre Louis XIV, il s'est inspiré de Charles Ier de Van Dyck. Mais alors, voilà Louis XIV. Et ensuite... alors, il y aurait aussi, évidemment, à commenter cette image, parce que quand il dit qu'il s'inspire de Van Dyck, hein, ça, c'est évidemment les héritages, les emprunts d'un artiste, mais... ce qu'on peut voir aussi, c'est que par rapport à Van Dyck, Charles Ier, ce n'est pas Louis XIV. C'est-à-dire que Louis XIV, c'est une espèce de chimère. Hein. Ce sont des jambes de danseurs jeunes et c'est une tête de vieillard. Donc c'est aussi le départ, finalement, du star system, si je puis dire, avec l'idée qu'il y a une contradiction entre le bas du corps et le haut, la tête, etc. Donc, Hyacinthe Rigaud expérimente autre chose, prolonge, mais en innovant. Par rapport à Van Dyck. Et alors après, il reçoit une autre commande qui est de peindre Charles V ou le futur Charles V. Et alors voilà, je l'ai mis à l'envers. Donc. Effectivement, il y a une grande ressemblance tant dans le geste que dans l'apparence. Il ne passe rien, il est de plus en plus décati et maintenant, alors on ne voit pas trop bien, je suis désolée, mais il y a une. On voit qu'il mendie, sa casquette de travailleur est retirée et c'est à mendier. Puis là, il se bat avec ses camarades de Beuvray et là, il est au tribunal. C'est-à-dire que le fait qu'il ait frappé sa femme n'a pas grande importance en 1898. Mais voici ce qu'en fait Geoffroy pour les salles de classe vers les années 1910-1912. On n'a pas d'année précise de l'achat de ces cadres par... Donc évidemment, ça change tout, puisque là, il frappe sa femme, il se retrouve immédiatement au tribunal. Et je crois que ces contraintes de décalage, de choses... fabriquées mais pas diffusées sont quand même vraiment importantes. Alors dans le cas de l'image mobile, il y a aussi, et quand c'est de la fiction, le problème des acteurs disponibles. Maintenant dans la cinématographie française, mais c'est vrai de plusieurs cinématographies, au départ les femmes un peu talentueuses qui ont déjà réussi au théâtre ne souhaitent pas devenir actrices, alors que les hommes sont d'accord pour aller jouer au grand écran. Ce qui veut dire qu'on a pas mal d'hommes âgés, mais qu'on ne trouve pas d'actrices. Alors on emploie des très jeunes qui ne sont pas du tout spécialistes, et du coup ça se répercute évidemment sur le scénario et sur ce qu'on montre. On va puiser dans le répertoire théâtral plus que dans la littérature, dans le théâtre de boulevard, parce qu'on n'a que des jeunes filles qui vont vivre avec des barbons. C'est un problème d'acteurs disponibles. Alors ensuite, toujours dans les contraintes externes, le poids des censures politiques, religieuses, morales, sexuelles, etc. Bon, alors en ce moment, on a évidemment une censure, on a eu des caricatures religieuses il n'y a pas très longtemps. Puis là, on a Da Vinci Code qui semble faire débat, donc pour l'instant, on nous dit qu'il est mauvais sans trop nous expliquer pourquoi. Au plan politique, vous connaissez aussi toutes sortes de cas de censure. Bon, là, je donne un exemple, c'est Nuit et brouillard de René. Comme pendant très longtemps, on n'a pas pu dire que la police française avait accompagné jusqu'au train de la mort, il y avait une image, je ne sais pas si vous la voyez, enfin, c'est un plan rapproché de dos. On voit bien nettement le képi du policier français sur le quai. Et alors, on avait, à l'époque, je crois qu'on disait zaponné, c'est-à-dire qu'on a noirci le képi, donc il ne reste plus qu'un dos, qui d'ailleurs est noir aussi. Et c'est uniquement il y a quelques années, enfin 3 ou 4 ans, lorsqu'on a décidé de faire une copie neuve à l'attention des scolaires, donc de la diffuser dans les écoles, que l'on a là remis, on a désaponné cette image et maintenant on voit nettement dans les copies qui circulent ce policier français. Donc cette censure, elle est importante puisque bah, les images peuvent apparaître ou disparaître. Il y a des montages kits. Alors bon, autre exemple célèbre, Octobre. Il y a des copies qui circulent avec Trotsky, d'autres il n'y a pas de Trotsky. Tout dépend de la version qu'on a. Mais il y a aussi les bandes son qui disparaissent et qui sont remplacées pour satisfaire aux exigences d'un public différent dans le temps ou différent dans l'espace. Il y a aussi bah, des traductions qui ne sont pas respectées. Il y a des génériques qui sont complètement reconstitués en fonction des acteurs qui sont restés présents dans la mémoire cinéphilique ou qui ne se sont pas commis. Par exemple, le Vigan qui est mis en bas de générique dans presque toutes les productions des années 30, alors qu'il a parfois un rôle central et au générique, il est vraiment en bas de distribution. Par contre, elle peut s'exercer encore différemment, notamment par le biais de la préfecture de police. Et souvent, on a tendance un peu à oublier. Alors, pour l'image mobile, ça, c'est un petit travail qu'on avait fait totalement. Enfin, c'est une anecdote, mais qui est quand même assez symptomatique. Nous avons toujours en cours, d'ailleurs, une recherche collective sur la prévention routière. Et l'un de nous dit il y a une identité méditerranéenne de conduite, donc spécialiste de la conduite au Caire. Et donc, pour preuve, Marseille, on conduit comme au Caire, et je vous le prouve avec le film Taxi. On a fait le choix de tourner à Marseille pour montrer que c'est un cliché qui ne fait que renforcer l'idée qu'il y a bien une identité méditerranéenne de conduite. Et comme j'avais la chance d'avoir un doctorant qui était dans les archives de la préfecture de police, je lui demandais s'il n'irait pas perdre une heure à regarder ce que le producteur Besson disait. Et le producteur Besson avait tout simplement demandé des autorisations préfectorales pour tourner dans Paris, et le préfet lui avait refusé de rouler à tombeau ouvert. Voilà, donc il était allé tourner à Marseille, parce que là, le préfet avait accepté. Donc ce sont des archives qu'on ne va peut-être pas assez solliciter. L'autocensure aussi, qui est quand même vraiment très très importante, et qu'on peut contourner de différentes manières. Donc au départ, le réalisateur, ben, c'est cher, donc il a envie d'avoir une avance sur recette. Donc pour avoir une avance sur recette, il ne va évidemment pas envoyer quelque chose qui n'a aucune chance de passer. Et puis au niveau de l'image fixe, bien sûr qu'un reporter d'image a envie que son travail soit pris et montré dans Paris Match ou autre. Alors la ruse consiste souvent, puisqu'on sait que les censeurs vont plutôt censurer à l'amont, parce que si c'est à l'aval, ça coûte cher. Donc, ils donnent un scénario et puis ensuite, ils ne le respectent pas. Ça, c'est la chose la plus connue. Et ils ne la respectent pas ou alors ils la respectent bizarrement. C'est-à-dire qu'on retrouve à peu près les mêmes plans. Mais comme les censeurs ont longtemps, alors ça devient moins vrai, mais pas été des gens d'image, ils sont quand même beaucoup plus appuyés sur le document scénario que sur l'image. Et puis après, il y a ce que le censeur, il y a la mauvaise mémoire, c'est-à-dire ce que le censeur ne juge pas utile de vraiment regarder attentivement. Donc il juge les scénarios. Et c'est notamment tous ces petits téléfilms, toutes ces émissions de télévision qui passent avant le JT, ou même dans la journée. Et par exemple, c'est assez intéressant, il y a beaucoup de feuilletons et de téléfilms du début des années 60 à l'ORTF. Où on a un comédien qui est Olivier Husson, lequel avait signé, donc était signataire du manifeste des 61, qui s'autorise, puisque ça, c'est après, l'acteur fait ce qu'il veut de la parole. Donc c'est une toute petite œuvre que bon, les gens ont beaucoup vue, mais pas les censeurs. Et il s'autorise donc toutes sortes de réflexions contre la guerre d'Algérie, qui ne sont pas écrites évidemment dans le scénario. Alors j'en arrive maintenant aux contraintes internes. Donc ça, ce sont les artistes qui sont pas libres tout simplement parce qu'ils s'inscrivent dans un champ artistique, ils s'inscrivent donc dans une filiation, dans le prolongement ou contre un artiste qui les a précédés. Alors là, je voulais vous montrer le radeau de la Méduse. Donc Delacroix est non seulement l'élève, mais le modèle de Géricault. Donc, vous voyez en bas à gauche, on a, et en bas à droite, on a des corps dénudés avec une sorte de petites chaussettes qui bat. Et puis on a aussi donc une proposition assez particulière avec un homme qui semble presque extatique en regardant un autre personnage. Donc Delacroix fabrique la liberté. Et on retrouve en bas à gauche ce personnage dénudé dont les gens ont beaucoup parlé en disant mais qu'est-ce que Delacroix, pourquoi cet homme nu en plein 1830 durant les Trois Glorieuses, on ne peint pas comme ça un homme nu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui veut dire que l'imagerie populaire, Pellerin à Épinal ou Decker à Montbéliard, reprend exactement ce personnage mais l'a rhabillé. Voilà, donc des contraintes importantes à prendre en compte parce que il me semble vraiment que voilà, il y a une empreinte forte des prédécesseurs et on s'inscrit donc dans leur prolongement ou contre eux. Par exemple au cinéma, Jean de Vevers qui accepte de réaliser une commande au moment de la reconstruction, donc en 40. La commande en fait vient de 50 et puis le film n'est pas diffusé, il sera pour la première fois à la télévision en 56. Logement notre honte, il dit je le fabrique contre Aubervilliers, contre le populisme d'Aubervilliers qui finalement ne montre rien avec ses gentils enfants d'Aubervilliers, etc. Ce qui veut dire que les images qui ont le plus circulé, hein, via les manuels scolaires, les cartes postales, les signés, etc., ben, on peut dire que ça a constitué progressivement le champ du figurable, et là on revient aux pyramides de Gizeh, qu'il est très difficile de fabriquer autrement que la force de l'habitude l'emporte. Alors j'arrive à mon deuxième point, donc la réception. Et j'évoquerai ici quatre aspects de cette réception qui posent quand même, me semble-t-il, beaucoup de problèmes. Alors premier point, c'est qu'est-ce que le destinataire fait du message. Le second, c'est comment peut-on retrouver un petit peu de cet état d'esprit du destinataire quand, je cite Peter Burke, la distance culturelle entre fabricants et spectateurs, source et cible, est trop grande. Donc plus on est dans le passé, plus évidemment, ou dans un espace lointain, moins on arrive à appréhender. Et puis, quelle lecture, quel pacte de lecture on impose au destinataire en fonction de ce que Gérard Genette appelle des seuils de lecture, des images. Alors, je rappelle, mais brièvement, parce que c'est bien connu, mais que donc au départ, pendant quand même pas mal de temps, donc pratiquement jusqu'aux années 1960, on pense que le destinataire est complètement passif, et on pense ça parce qu'on est encore marqué par les travaux sur les réflexes conditionnés de Pavlov, et encore très marqué aussi par la psychologie sociale américaine, notamment par les travaux de Kurt Lewin, qui avait dit qu'il avait réussi à modifier les attitudes des consommatrices américaines, et qu'on pouvait aussi modifier les attitudes des citoyens lors des campagnes d'images politiques. Alors, dans la fin des années 60, évidemment, on commence à penser que non, pas du tout. En France, c'est avec Michel de Certeau, et notamment avec le travail collectif sur l'invention du quotidien, là, on démontre finalement que le destinataire est tout sauf passif, et que finalement, il n'accepte un message consensuel ou un message rebelle, que si ce message lui convient, c'est-à-dire s'il y a déjà l'inéament de ce message dans l'air du temps. Alors, c'est sûr qu'il existe de forts phénomènes aussi d'interactivité entre le producteur et le destinataire, puisqu'on sait, alors, bon, il y avait déjà eu cette expérience en quelque sorte avec le feuilleton Fleuve Rocambole, où les lecteurs n'avaient pas du tout supporté qu'on vitriole Rocambole. Et pour ne pas faire faillite, le directeur du journal avait, dès le lendemain de la réception de tous ces courriers de mécontentement, dit que c'était un rêve. Alors on a retrouvé la même chose dans Dallas, par exemple, où les spectateurs américains n'ont pas du tout apprécié qu'on tue Bobby le gentil. Et 22 épisodes plus tard, à la nouvelle saison, la femme sort d'un mauvais rêve et trouve son mari sous la douche. Alors, ça a été la même chose en France. C'est là qu'il y a eu une petite étude de fait assez intéressante avec un feuilleton qui s'appelait Jeannick Aimé, diffusion 62. Les réalisateurs avaient été assez audacieux, c'est-à-dire qu'ils voulaient montrer une femme moderne qui travaillait, qui n'avait pas besoin de s'épanouir avec un homme traditionnel. Et donc, elle avait évidemment maille à partir avec un fiancé vulnérable, fragile, facétieux, etc. Et le problème, c'est que les téléspectateurs ont commencé à donner des conseils à l'actrice, qu'ils confondaient avec le personnage, et elle a reçu de plus en plus de courriers qui lui disaient de ne pas épouser cet horrible fiancé. Donc là, ça a déjà basculé une première fois, on lui a fait rencontrer deux autres hommes, mais il n'y avait pas consensus des téléspectateurs sur les deux autres, donc ils ont dû laisser une fin complètement ouverte. J'arrive au deuxième point, donc l'étude du cadre perceptif, quand la perception est très différente et que nous avons du mal à l'âge donc du multimédia, de la couleur, du son, etc., à regarder ces images-là, allégoriques, différentes, et à les comprendre. Alors là, on se rend compte déjà d'une chose qui est que non seulement on ne les comprend pas, mais qu'elles nous arrivent extrêmement dénaturées. Ces images nous arrivent sous forme évidemment de reproduction, avec donc souvent toute la même dimension, la carte postale ou l'insertion d'une petite vignette dans un ouvrage. On a donc l'impression qu'elles sont toutes de même dimension, qu'elles sont toutes de même facture. Il n'y a plus le relief de la peinture ou du vitrail. Et puis on a évidemment le sentiment, alors là assez net, que la couleur quand même a passé, ou que la restauration a été plus ou moins saugrenue et que le restaurateur n'a peut-être pas utilisé les pigments de jadis. Donc, à ce moment-là, on prend déjà conscience que quelque chose ne va pas dans l'image ancienne qu'on est en train de travailler. Alors, les autres dénaturations, c'est qu'on a décontextualisé. Alors là, on a le travail de Francis Haskell, qui explique les dénaturations saugrenues dues à Alexandre Lenoir, qui a voulu sauver évidemment de la destruction toutes sortes d'œuvres, peintures, mais aussi sculptures, mais qui les a tellement décontextualisées que ça ne ressemble évidemment plus du tout à ce qui était cherché. On peut dire la même chose dans les vitraux d'église ou même dans la galerie des batailles de Versailles, où le duc d'Orléans veut des choses assez précises, enfin veut reconstituer une série des batailles qui expliquent l'unité française, et où aujourd'hui on voit ça n'importe comment, il y en a une partie dans les attiques, et donc ça a évidemment perdu sa signification puisqu'on voit ça comme des œuvres closes alors que c'était fait pour être vu en série, donc une œuvre beaucoup plus large. Donc on oublie aussi les dimensions et on oublie aussi qu'on regarde ça sur son bureau, alors que ça pouvait être immense et puis on devait tendre le cou pour regarder la chapelle Sixtine ou regarder au sol une toile de Pollock, etc. Alors, comment peut-on néanmoins retrouver ces images du passé, enfin essayer de comprendre comment elles ont été reçues? Là, je reviens à Michael Baxandall parce que je trouve qu'avec Jean-Claude Schmitt, pour lui, le Moyen-Âge, c'est quand même les méthodes qui sont peut-être les plus intéressantes, en tout cas dans ce que je connais. Baxandall regarde attentivement, lit attentivement les traités d'éducation les plus populaires du siècle. Et il comprend que l'homme, finalement, du Quattrocento, regarde beaucoup plus longtemps que nous un tableau, qu'il le contemple, parce que c'est un signe de distinction que de pouvoir en parler extrêmement précisément et de façon extrêmement anecdotique. Il lit après tous les traités de mathématiques et il se rend compte aussi que vraisemblablement, en tout cas c'est son hypothèse forte, l'homme du Quattrocento ne regarde pas comme nous parce qu'il commence d'abord par percevoir une somme géométrique. Il ne se concentre pas comme nous le faisons sur la couleur et le personnage, puis après sur l'arrière-plan, en sautant d'un point de fixation à l'autre, il verrait d'abord des formes géométriques. Alors ensuite, ce que nous explique aussi très bien Jean-Claude Schmitt comme Michael Baxandall, c'est que les gens attendent aussi beaucoup plus de l'image, puisque ce sont des images religieuses qu'ils connaissent bien. Donc nous, aujourd'hui, ça nous paraît un peu étrange, mais pour l'homme de l'époque,